When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Et j'avais cette frustration de et ce truc de ma mère qui me disait fais pas, enfin, parce que elle en tant que, je pense, artiste peintre qui s'était jamais vraiment lancée là-dedans, qui... parce qu'elle pouvait pas, en même temps elle avait moi à charge, elle a subi, donc elle a fait des trucs efficaces pour que moi je puisse bien grandir. Elle a pas pris les risques d'avoir une carrière, donc elle avait peur que je prenne le risque d'avoir une carrière, donc en fait j'avais la pression là-dessus. Et à un moment donné j'ai dit mais tu sais quoi, allez vous faire foutre. Si je veux faire ça, je veux le faire. Et j'avais peur de regretter après, quoi.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Ah, Alex, je suis très heureux de t'avoir.
Bah, merci de m'accueillir chez toi.
Je t'ai découvert cet été grâce à tes vidéos en slip au bord de la piscine.
Ouais.
Et c'est fou en fait parce que je suis passé à côté de toi alors que t'es déjà un petit bout de carrière en France qui est en train de décoller là maintenant. Et en fait, quand j'ai vu après ce que tu faisais, je me suis dit ah ouais, c'est normal. Parce que moi, avant de faire mes podcasts et tout, je faisais un site web qui s'appelle Mademoiselle.
Okay.
Où c'était beaucoup de meufs et disons que ton spectacle Bâtard Sensible serait assez peu pu passer, tu vois.
Sur Mademoiselle. C'est vrai, c'est pas très Mademoiselle.
En vrai, à l'époque, je crois, en tout cas, quand t'as commencé à t'y mettre, tu vois, en France, t'es arrivé 2017-2018, c'est ça?
Ouais, 2000, ouais. J'ai commencé mes premiers trucs en 2016, on va dire.
Ouais.
2016, je découvrais vraiment le game français où, en tant que Suisse, je prenais une claque parce que c'est la première fois de ma vie que je voyais que c'était possible de jouer genre 4 fois dans la même soirée,
ouais.
Ce qui n'était impossible en Suisse. Et après, je me suis installé avec le spectacle vraiment une première fois en 2018 à la Petite Loge.
Ok.
2017-2018, ouais.
Parce que tu vois, par exemple, sur Mademoiselle, on a pas mal parlé de Thomas Wiesel, qui est un de tes...
Bien sûr, compatriote.
Très bon pote.
Et très bon pote,
au-delà
ouais.
de cette
compatriote. Oui, oui.
Et qui est, plus passe-partout, on va dire, Thomas.
Oui, et puis c'est surtout qu'il fait très bien. C'est que tu peux le mettre n'importe où et il fera en sorte de faire rigoler les gens parce que c'est un vrai sniper et il est très, très bon. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un humour un peu plus...
Ta catchline, là, c'est « Venez rire et avoir honte ».
Ouais.
Exactement ça.
C'est ça. Mais c'est un ami à moi, Walter Lawadi, que je salue s'il nous écoute.
Bonjour Walter.
Qui m'a dit, c'est ça. Il m'a dit, en fait, quand on vient te voir, on rigole et on a honte et on a honte de rire. C'est parce que ce qu'on a honte, parce qu'on a honte pour moi, mais il y a beaucoup de gens qui ont honte d'eux-mêmes aussi parce que je soulève peut-être certains trucs chez l'homme.
Oui.
Que d'habitude, il a envie d'enterrer, quoi.
Oui.
Donc, c'est pour ça que de temps en temps, je vois des yeux qui se baissent, des... surtout les mecs qui viennent en couple, les machins comme ça. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi avec un spectacle d'humour. C'est que c'est bien de faire rire, mais de faire vivre un truc un peu plus bouleversant ou un peu plus, tu vois, passer par d'autres émotions que le rire.
Et c'est vrai que le rire est l'un des rares trucs que tu peux pas empêcher.
Ouais, bah oui, ça sort.
Quand tu ris, ça sort, quoi. Et c'est vrai que t'as... Enfin, en tout cas, moi, je me suis retrouvé à plusieurs moments à rire et à faire « Oh putain, je suis en train de rire de ça,
ouais,
ça
ouais, fonctionne. » et puis, ce qui est même marrant, c'est qu'il y a des gens qui attendent de voir si les autres rigolent avant de rire. Ça, c'est marrant quand tu peux avoir des... Parce qu'il y a des soirs où ça accroche direct et les gens sont dans une ambiance hyper décontractée, on est là pour rigoler. Et il y a des gens, ils savent à peu près ce qu'ils viennent voir, mais ils ne savent pas vraiment. Ou alors, ils ne s'attendaient pas à ça.
Oui.
Et du coup, il y a vraiment un truc de... Ok, bon, bah, je vais regarder. Ouais, ils rigolent, ok, je peux me lâcher. Elles rigolent, les meufs, elles rigolent ? Les meufs rigolent ou pas ? Et donc, ils attendent un peu l'aval de tout le monde avant de se lâcher. Mais quoi qu'il arrive, au bout de 5-6 minutes, grand max, c'est fini.
Oui, c'est-à-dire que...
C'est fini, tout le monde.
T'as des gens qui sortent ? Ça t'arrive de...
Non, j'ai jamais...
T'as des gens qui partent vraiment parce que...
Non, qui sont partis, jamais. Non, jamais. Alors, ou alors... De toute façon, je vais jusqu'au troisième rang, donc... Donc, je sais pas s'il y a des gens qui sortent. Je sais pas si... Non. Il y a déjà quelqu'un qui est tombé de son siège. Ça, mais ça, c'est un super bon compliment.
Oui.
Mais sinon,
littéralement.
Non. Ouais, ouais. Mais sinon, non. Non, j'ai pas de... Okay. Ça va, pour l'instant, tout le monde est à peu près satisfait, quoi.
Parce que... on va parler un peu de ton parcours et tout, mais là, en fait, si t'es aussi en train d'exploser, parce que t'es sur France Inter, que t'as une chronique...
Deux
chroniques.
Pardon.
Excuse-moi.
J'en ai deux par semaine. Non, mais je tiens à le souligner parce que c'est quand même beaucoup de travail.
C'est du taf. Ouais. Et c'est vrai que certes, t'as des personnages qui montrent un petit peu ton univers, on va en parler un peu après,
ouais.
Mais t'as aussi une bonne tronche, t'as un peu la gueule du gendre idéal,
ouais.
Et ça contraste un peu avec, comment dire, la...
Oui, avec la dégueulacité que je peux être, ou je peux dire, ouais. Mais c'est peut-être pour ça aussi que, entre guillemets, on peut me pardonner certaines choses. Ouais. Mais c'est aussi la façon peut-être que j'ai d'aborder les choses et la manière dont je les dis. Tu vois, je suis pas dur sur scène. Je suis un mec qui a le sourire. Je rigole parce que dans la vie, je rigole assez facilement. Et du coup...
C'est ton vrai rire d'ailleurs.
Ouais, ouais. Voilà. Mais il est là, il est un petit peu là. Mais oui, c'est mon vrai rire. Et c'est la manière que j'ai de le balancer. J'ai l'impression un peu d'être un bon pote qui raconte à tous ses autres potes le week-end de ouf qu'il a passé.
Ouais.
Sauf que ça dure une heure et demie. Et c'est un peu ça l'ambiance. Donc j'ai l'impression que les gens passent le niveau de « c'est un humoriste ». On a plus l'impression d'être un groupe juste en train de se marrer, quoi. Et on sort, on se dit « oh waouh, peut-être ok, il a dit ça, il a dit ça ».
Peut-être baiser des tabourets, quoi.
Ouais, oui, il y a tout. Il y a tout qui t'as vu, il y a tout, le pied de micro, le tabouret. Ouais. Autant la mise en scène est très minimaliste, autant elle est vraiment autant elle est vraiment tout accessoire utilisé à fond. Il y a rien qui est laissé au hasard, tu vois, tout est utilisé à fond. On est vraiment dans un truc voilà.
Tu te retrouves à quelques moments à foutre des grands coups de pied dans tes tabourets et qu'est-ce qui se passe? T'as besoin de l'énergie là, ça se sent un peu.
Oui, parce que en fait, il y a des moments j'ai l'impression que je sais pas, la scène, c'est ça qui est un truc fou avec la scène, c'est que quand tu fais rire des gens, quand vraiment tu as des vagues de rire, il y a vraiment un truc, je sais pas, moi ça me fout en transe. Donc j'ai vraiment des moments où j'ai l'impression que je vole.
Oui.
Et je sais pas, j'ai envie de casser des choses, quoi. Mais c'est du bonheur.
Oui.
En fait, autant tu vois, tu as les Black Blocs et les machins, ils cassent des vitrines et tout ça parce qu'ils ont la haine et tout. Moi je pense que, tu sais, si un jour il y a une manifestation, les gens juste ils vont dehors pour dire qu'ils sont heureux, bah ça, là ça sera moi qui cassera des boulangeries ou des trucs comme ça. Tu vois, mais ça n'a aucun sens. Mais je sais pas, j'ai envie de, c'est un moyen d'extérioriser ça, quoi.
Ouais. T'as une énergie incroyable sur scène.
J'arrête pas.
T'es éclaté à la fin ou tu fais du sport?
Je suis bien. Là oui, je mets.
T'es dans un état.
Je suis obligé de faire un peu de sport quand même parce que en fait comme ça dure une heure et demie et comme t'es venu voir le spectacle, t'as vu que ça n'arrête pas.
Oui.
Oui, à la fin, t'as vu, je transpire. Enfin, c'est vraiment, j'ai fait un match de foot, quoi.
Tu t'assois, je crois, 3 minutes en tout, et encore.
Ouais,
t'es
et puis
pas
je
vraiment
pas
assis.
Et puis machin. Mais parce que tout est, en fait, c'est un truc que des morceaux, des passages que je rôde depuis un moment, que j'ai retravaillé, que j'ai tout assemblé, et après il faut peaufiner. Mais en fait, après, c'est vraiment que du détail, et c'est qu'une question de rythme au final qui fait que tout tient. Parce que si je perds les gens à un moment donné, pour les replonger dans mes histoires, c'est difficile. Donc c'est un peu un numéro d'équilibriste.
C'est l'une des raisons pour lesquelles tu mets par exemple pas d'extrait de ton spectacle sur internet parce que
c'est dur à extraire.
Hors contexte, à mon avis, c'est vraiment que ce mec est fou, quoi.
Bah oui, et puis même, on se dit pourquoi les gens peut-être trouvent ça drôle ou pourquoi, parce que.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'est, je pense que c'est...
C'est millimétré.
Ça, ouais, et puis, non, mais ça va paraître présomptueux, ce que je dis. Et puis, en même temps, je m'en bats les couilles.
N'hésite pas, t'es là pour ça. Hein.
Mais je pense que, en fait, mon spectacle, c'est un peu comme un film. Mm. Si tu extrais la scène d'un film, tu vois, on va se dire, bon, bah, c'est quoi tu vois, la bande-annonce, tu peux comprendre, mais si tu vois une scène, tu vas dire, je comprends pas pourquoi c'est marrant. Bah, moi, mon spectacle, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est que c'est pas vraiment... Tout est lié, il y a beaucoup de trucs qui reviennent, et puis on comprend pourquoi je suis dans cet état-là, parce qu'il y a eu ça avant, et parce que c'est parce qu'il y a eu ça avant que je réagis comme ça. Donc tout est c'est dégueulasse, mais c'est quand même hyper mathématique et hyper bien rodé.
Ah,
ouais.
C'est calculé de ouf. Non mais bien sûr.
Non mais c'est vrai.
Tu démarres d'entrée en désacralisant ton rire.
Ouais, ouais.
Qui plante un peu le personnage en fait, parce que t'as un rire...
Oui, assez... Oh, ouais. Mais parce que les gens en plus pensent que c'est pas mon vrai rire, mais
oui,
c'est vraiment ça, ouais.
C'est vraiment ton
et en
vrai
plus,
rire.
Comme je rigole facilement, tu vois, bah, si tu rigoles,
tu rigoles
ça me fait
de
rire.
Tes vannes sur scène, en
et
plus.
Puis, bah, non, en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est pas mieux. Non, je rigole pas, mais non. Je rigole. Ce qui me fait rire, c'est de voir les gens rire.
Les gens qui.
Oui. Et enfin, il fallait s'y attendre quand tu fais humoriste. Enfin, si tu t'attends pas à ce que les gens rigolent, c'est que t'es vraiment voué à faire des bides toute ta vie et à changer de carrière. Mais, je sais pas. Et ce qui me fait rire, c'est aussi, c'est ce début de bonheur, parce qu'en vrai, putain, c'est tellement bien d'être sur scène et d'avoir des gens qui rigolent à tes histoires personnelles, à ce que tu as envie de transmettre, à ce que tu défends. Et tu te dis, c'est fou. Tu sais, de temps en temps même, il y a des moments où tu stresses, des machins, tu te dis, putain, est-ce que ça va aller? Oh, ça me saoule, j'ai trop enchaîné. Mais je te jure que dès que tu arrives sur scène, c'est fini. Mmh. T'oublies. Parce que c'est incroyable.
Tu
incroyable.
Mets un coup de pied dans le micro et c'est parti.
C'est parti. Mais c'est incroyable de vivre ça. Tu vois, mais je pense que c'est vraiment quand t'aimes ce que tu fais dans la vie et que t'es en train de réaliser pourquoi t'aimes ça. Autant, il y a des moments horribles. Tu vois, quand j'arrive surtout... Et même maintenant, hein, quand je teste des trucs, de temps en temps, je me prends des fours.
Oui.
Mais maintenant, je les vis un peu mieux. Parce que je suis un peu retombé sur mes pattes. Mais tu vois, au début, quand tu commences, que tu prends des bides, que t'as tout lâché pour faire ce que t'aimais. Tu fais ce que t'aimes, tu bides, tu prends le métro. Et tu te dis, putain, je fais ce que j'aime. Mais apparemment, les gens, ils aiment pas... que je fasse ce que j'aime, c'est terrible.
Ouais.
Et là, je suis heureux. C'est pour ça que je rigole. Je pense que c'est en fait, c'est parce que peut-être il y a une part d'enfant en moi qui en revient pas et je suis là genre oh c'est génial. Oh mais je vous ai parlé de ça. C'est un peu ça quoi.
Ouais, ça se sent.
Ah ouais. Ah bah c'est cool.
Que
non,
t'es
bah,
là-dedans sur
ouais.
scène, que tu kiffes et que tu kiffes que les gens kiffent aussi.
Bah oui, de ouf.
Ouais, ça se sent vraiment.
De ouf.
T'as 33 ans. Donc ton spectacle s'appelle Bâtard Sensible, ce qui ça te décrit pas mal en fait finalement.
Bah ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai, parce que c'est autant j'adore faire des vannes de pute, tu sais, être méchant, moqueur. Parce que j'ai grandi comme ça, parce que j'ai grandi avec plein de potes d'origines différentes et tout ça, et on s'est toujours vanné et on adore ça tous. Nous, ce qui nous fait rire, c'est ça. Mais sensible aussi, parce que voilà. Parce qu'il y a un petit cœur au-dessus de cette bite, quoi. C'est, tu vois, c'est non mais
en dessous, au-dessus,
ouais, on sait plus. Non mais
plus.
C'est vrai, je suis un mec, je suis très sensible. Enfin, c'est aussi, il y a un peu un personnage, tu vois,
ouais,
c'est derrière.
C'est une façon de te cacher un peu.
Bah, c'est vrai, c'est vrai. J'ai toujours été même très timide dans mes approches avec les filles, avec les machins. Tout le monde, tu vois, pense. C'est pour ça que j'en parle même dans le spectacle. Pour conclure, je suis nul parce que en vrai. J'ai toujours attendu, tu vois, que...
C'est une vraie histoire, cette...
Oui, bien sûr.
C'est 17 dates...
Mais c'est pas qu'une, il y en a plein. J'ai plein... Parce que j'osais jamais... Alors après, il faut faire la différence aussi entre le jour et la nuit. C'est-à-dire que peut-être qu'en boîte de nuit, tu vois, parce que là, les gens, on sait un peu pourquoi ils viennent aussi. C'est-à-dire, danser, tu sens quand... Donc ça va peut-être un peu plus vite. Mais c'est vrai que sur des rencarts, on se dit, on va se prendre un café, on part, et machin... je suis très à l'écoute et très, tu vois, j'ai peur de faire quelque chose de mal. Donc,
c'est un peu ta face obscure finalement, ce que le personnage que tu montes sur scène.
Ben, c'est un peu, oui, un alter ego méchant. Enfin, pas méchant, mais. Ben, il n'est pas vraiment obscur, hein, le personnage sur scène. C'est juste qu'il a la confiance. Ben, en fait, c'est. Mon personnage sur scène, c'est comme ça. C'est,
ben, par rapport à un mec romantique, il.
Oui, ouais, mais c'est un peu un éternel loser, tu vois. Il se ramasse quand même tout le temps, il subit tout le temps. Il part comme un winner, mais il finit en loser tout le temps. Et alors, c'est vrai que la romance, voilà, il faut vraiment la lire entre les lignes, quoi.
Ça pourrait être la prochaine. La romance, faut vraiment la lire entre lignes, c'est très bien. Très bonne catchline. La première question que je pose à tous mes invités, Alex, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans ? On revient à l'enfance.
7-8 ans, j'étais un joli petit garçon.
Tu l'es toujours,
j'étais content, tu sais. Merci. J'étais content, j'étais le fanfaron de la classe. J'étais bien à 7-8 ans. 7-8 ans, c'était une belle période. Franchement, je faisais un peu le malin, j'étais un peu bagarreur, un peu fouteur de merde quand même. Je me faisais pas mal tirer les oreilles, mais j'étais bien. Les filles, elles étaient un peu amoureuses de moi et tout ça. Et il y a eu un basculement après, à l'adolescence, où j'ai pris du poids.
Okay.
Et là, j'ai eu le contre-coup. Je suis passé du joli de la classe au gros marrant. Et ça, c'était plus compliqué, l'adolescence. Surtout avec les filles. Et je pense que c'est là où j'ai commencé à développer un complexe un peu avec les filles. Et à, tu vois, à garder. Parce que pour moi, les gens qui ont été gros, ils resteront toujours gros. Enfin, les gens qui ont eu un complexe à cause de ça ou qui ont vécu un complexe à cause de ça. Et un complexe encore, c'était plus une frustration parce que j'ai jamais été le petit gros donc de qui on se moquait. Si on se moquait, j'avais toujours la répartie.
Oui.
Mais c'était toujours avec les filles, d'un point de vue sentimental. Et puis l'âge, l'adolescence, c'est vraiment l'âge cruel où t'es voué comme ça, t'es jeté dans une fosse avec que des petits-fils de... On est tous des connards, quoi.
Bien sûr.
On est tous des connards à l'adolescence. Et puis tu vois que certains connards, ils sortent avec des filles super jolies. Et puis toi, les filles, bah, elles t'aiment bien. Elles t'aiment bien, tu vois.
Elles t'aiment bien.
Elles t'aiment bien, voilà. C'est tout. Donc c'était bizarre, ouais. Je suis passé du... Putain, je réalise ça maintenant, hein. Parce qu'on parle souvent de l'adolescence, mais on parle pas souvent du 7-8 ans. Ouais.
Ouais.
Et c'est vrai que la primaire, j'étais le joli garçon de la... J'étais un des beaux mecs de la classe. Et puis après... Allez, salut, petit gros.
Et ça te poursuit encore aujourd'hui, tu le dis ?
Le petit gros ?
Ouais.
Oui, j'ai toujours un truc toujours des complexes, des machins, même comme avec le corps. J'ai tendance à faire des yo-yo de dingue. Donc j'essaye un peu de me maîtriser, mais c'est vrai que c'est quelque chose que t'as plus envie de revivre, en fait.
Ouais.
Et une fois que t'as atteint un niveau où t'es bien, dès que tu le repères, t'es... c'est éternel, c'est un truc, ouais.
Pourtant, donc moi, je t'ai découvert avec tes vidéos en slip au bord de la piscine.
Oui, mais tu vois, c'est parce que je suis quand même...
C'est une forme de revanche pour toi, à ce moment-là. Mais...
Ah, complètement. Ah, ouais. Oh, oui, complètement.
Okay.
Complètement. Moi, dès que je suis content, quoi. Mais et puis, c'est un truc aussi personnel. Je me dis, putain, j'arrive à faire ça.
Ouais.
Le problème, c'est que j'arrive pas à le garder longtemps. Donc, tu vois, ça fait comme ça. Après, c'est mes coachs qui sont contents parce que je reviens tout le temps les voir. Donc, je remplis leur caisse, mais oui, c'est un peu une revanche. Puis tu vois, mais il y a ces Anne Maurice qui disait un truc très vrai, Jérémy Lorca, je sais pas si qui disait un truc que ceux qui étaient des petits gros, ils sont toujours un peu méchants. C'est parce qu'on a toujours un truc, enfin, il y en a qui restent toujours un peu méchants.
Un peu la revanche.
Parce qu'ils ont toujours cet esprit revanchard. Mmh. Les anciens petits gros, tu vois. Les anciens gros qui ont été maltraités, toujours un peu un truc de revanchard.
Ça marche aussi avec les mecs petits, je trouve.
Ah, bien sûr, bien sûr. Mais plein, on est plein, les mecs, on a plein. Hein. Le petit gros, c'est terrible. Tu vois, j'ai un pote, lui, qui a eu un truc qui a bouleversé la vie, c'est la calvitie, quoi. Lui, sa calvitie, là, c'était...
Il n'accepte pas ?
C'était pour lui, c'était terrible, parce qu'il était hyper beau avec les cheveux. mais en 2 ans, c'est parti, quoi. Ouais. Bon, du coup, maintenant, il a de nouveau les cheveux. On remercie la Turquie, le sponsor de ce podcast, Turkish Airlines. Mais c'est vrai. Hein.
Je suis contacté, moi, régulièrement par des... par des cliniques turques.
Ah ouais ?
Je leur dis, les gars, c'est un nom.
Ouais,
ça va aller.
Ouais, oui. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand t'as vécu, on t'a connu avec des cheveux et machin... Moi, je sais pas. Hein. Enfin, moi, je sais très bien. Si demain, je commence à... Turquie direct.
Turquie. Ah ouais. Comme Emmerich, là. J'ai vu Emmerich Lomprey qui a fait
ouais,
ça.
Ouais, il a fait ça, là. Ouais. C'est marrant. Il a fait ça.
Très marrant. Donc, ouais, ok. 15 ans, un peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous êtes tes parents dans la vie ou qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie comme métier?
Alors, ma mère...
D'où ils viennent?
Alors, ma mère, elle est polonaise. Elle est arrivée en Suisse, je crois, à l'âge de 27 ans, 28 ans. Elle a fait les beaux-arts, elle, en Pologne. Elle a fait un master en beaux-arts et elle était artiste peintre. Elle est venue au début, elle faisait des travaux graphiques pour... je crois que pour le réseau ferroviaire ou un truc comme ça. À l'époque où il n'y avait pas l'informatique. Ensuite, il y avait l'informatique. Ils l'ont dégagé parce que ça ne servait plus à rien, des gens qui faisaient des trucs à la main. Donc, elle a bossé en tant qu'indépendante dans des bureaux, sur des gestionnaires, des trucs comme ça. Et à la fin, elle est devenue prof de dessin. Elle a fait ses 5, peut-être même 8, voire 10 ans en tant que prof de dessin. Et mon père, lui, il est tunisien. Il a quitté la Tunisie à 20 ans pour aller en Suisse, en Belgique, aux États-Unis. Mon père, c'est pour résumer... Où est-ce qu'il n'est pas allé et qu'est-ce qu'il n'a pas fait, voilà.
Ah.
Il a fait beaucoup de choses dans sa vie et puis ils se sont rencontrés à Genève. Voilà.
Ok. Donc tunisien, polonais.
Né en Suisse.
Waouh.
Ouais, c'est
un gros mix bizarre.
Oui, mélange bizarre de culture surtout. C'est vrai que quand je voyais mes grands-parents polonais et mes grands-parents tunisiens, l'approche est différente. Voilà, c'est pas les mêmes ambiances, c'est pas la même chaleur. C'est vrai qu'il y a un côté en Pologne quand même qui était plus triste, plus fade, on va dire. Plus dur.
Moins d'émotions,
même, je le sens
peut-être.
Ouais, mais je le sens même à travers ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un de dur. Elle m'a élevé seule en plus, ma mère. Donc, c'est quelqu'un de dur et elle a été élevée à la dure. Et quand j'allais voir mes grands-parents, parce qu'en plus, c'est des juifs tunisiens, donc c'est vraiment... quand t'es le petit-fils du fils, le fils du fils préféré, t'es le meilleur du monde, t'es exceptionnel, alors que de l'autre côté, c'est... redescends très vite sur Terre, t'es une merde comme plein d'autres. Donc il y avait un peu un truc de mais je suis bien ou je suis pas bien. Donc voilà, c'est ça. C'est un peu ça ma vie, mon parcours. Ouais.
C'est ça un peu qui t'amène à monter sur scène, t'as l'impression, avec le recul. Parce que putain, faut y aller quoi.
Ben, j'ai toujours été attiré par le cinéma et ensuite la scène quand j'ai découvert Eli Kaku et tout ça. Je trouvais ça dingue, mais pour moi ça me semblait impossible.
Ouais.
De faire ça. Pour moi, je trouvais ça trop lunaire d'aller sur scène et de faire rire des gens que tu connaissais pas. Faire rire des copains, c'est une chose, mais monter sur scène devant des gens qui te connaissent pas et les faire rire, pour moi, c'était... Il y avait que les humoristes qui pouvaient faire ça.
Ouais.
Tu vois, pour moi, c'était pas possible. Et après, c'est venu comme ça, des potes qui m'ont inscrit sur une scène et je l'ai fait. Et ça s'est bien passé et j'ai dit... Mais j'avais cette frustration parce que ça, c'était dans ma tête. Je voulais devenir acteur, et je faisais... tout sauf des formations pour devenir acteur, tu vois. J'ai commencé l'uni et la fac.
Ouais.
En droit, après j'ai laissé tomber parce
en
que
droit.
Je voulais... Ouais, après je me suis dit mais j'ai quand même essayé les cours Florent, j'ai pas été pris au cours Florent en classe libre. Donc je me dis donc en fait acteur c'est juste dans ma tête, personne veut de moi en acteur.
Ah yes.
Donc j'ai fait de la pub, j'ai eu un bachelor en direction artistique.
Et ah ouais. T'étais parti pour travailler en agence de pub.
Ouais, on est plein hein, dans l'humour hein, à avoir fait de la com. Hein.
Ouais.
Il y a Marina Rollman, elle était dans la com. Ouais. Charles Nouveau, il était dans la com. On est plein.
J'ai lu d'ailleurs que vous t'avez fait ta première scène le même soir.
Que Marina, ouais.
Que le fameux bide de Marina, si je me trompe pas.
C'est pas celui-là. Non, okay. Elle avait fait justement. Je crois que c'était quelques années auparavant. Oui. Elle avait fait ça, elle avait pris un bide.
Okay.
C'est celui-là dont elle parle.
Le bide interstellaire de Marina qui
était après sur Google voilà. Tout le temps, machin, ouais. Mais non, ça s'était très bien passé.
Ok.
Et voilà, ouais. Je sais pas plus de quoi parler. On parlait de quoi ?
On parlait de...
De cette frustration, ouais. C'est vrai que je voulais devenir... Et je me mentais à moi-même. Parce qu'en fait, et j'avais cette frustration de... Et ce truc de ma mère qui me disait, fais pas... Enfin, parce qu'elle, en tant que, je pense, artiste peintre, qui s'était jamais vraiment lancée là-dedans, parce qu'elle pouvait pas en même temps, elle avait moi à charge... Elle a subi, donc elle a fait des trucs efficaces pour que moi, je puisse bien grandir. Elle n'a pas pris le risque d'avoir une carrière. Donc, elle avait peur que je prenne le risque d'avoir une carrière. Donc, en fait, j'avais la pression là-dessus. Et à un moment donné, j'ai dit, mais tu sais quoi, allez vous faire foutre. Si je veux faire ça, je veux le faire. Et j'avais peur de regretter après, quoi.
T'as pas mal ramé entre-temps, si j'ai bien compris, non ? T'as allé taffer tôt, bosser.
J'ai toujours bossé, ouais. J'ai toujours taffé. En fait, dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire des nettoyages dans des... Après les cours, je partais dans une banque de 18h à 20h du lundi au vendredi. Je nettoyais les bureaux. Donc ça me faisait un petit truc. Après, j'ai commencé à bosser chez H&M en tant que vendeur quand je passais mon bac. J'étais à 50% chez H&M. Et ensuite,
j'imagine tellement excellent vendeur, sans aucun doute.
Bah, chez H&M, j'aimais bien, mais même si en fait H&M, c'est tout sauf la vente. C'est vraiment le McDo du truc. C'est en vrai, tu ranges, tu réassors, tu t'occupes des vestiaires, tu chopes des gens qui se branlent dans les cabines, c'est exceptionnel. c'est véridique, hein.
Wow.
Et c'est très bizarre à dire. Excusez-moi. Et t'entends, monsieur. Et il finit le bâtard. Et tu te dis
normal. Ah, voilà. Donc, en même temps, il a commencé. Ouais. Autant aller jusqu'au bout.
Mais c'est fou, moi. Tu me. Enfin, moi, c'est. J'ai rien contre ta voix, hein, mais je pense que si je fais quoi que ce soit d'érotique et que tu me parles, bah, je vais un peu galérer. Non, j'ai fait ça. Après, j'ai fait plein de taf. Et après avoir eu mon bac, j'ai fait ce qu'on appelle une année sabbatique. Ensuite, c'est un truc que souvent les gens font, une année sabbatique.
Ouais.
Parce qu'une c'est vrai que après avoir étudié, c'est un peu ridicule. Bah, c'est Marina d'ailleurs qui en parlait. Ouais. Elle disait, c'est fou. C'est vrai qu'on a vraiment besoin d'une année sabbatique après avoir été à l'école. Quoi. C'est...
Non, mais il y a un côté un peu. Tu sais pas.
On
tu
sait
sais
pas ce
que tu veux faire. Quoi. Tu vas prendre un peu
donc
le temps.
Donc souvent les gens partent, tu vois, apprendre l'anglais ou machin. Et en fait, moi, j'ai fait une année où j'ai refusé de faire ça. Je voulais faire une année où je faisais plein de métiers différents, mais ce que j'appelais des vrais métiers pour moi. C'est-à-dire des trucs, tu vois, aller sur des chantiers, vendeur, supermarché, installer des piscines. J'ai fait des trucs manuels, ou même les mecs qui t'arrêtent dans la rue, tu sais, pour te faire signer sur des associations et tout, machin. J'ai fait un peu de tout, quoi. Parce que je voulais voir ce que c'était le monde du travail. Et ça m'a énormément appris, et ça m'a énormément inspiré, d'ailleurs. Parce que ça m'a fait découvrir des persos, il y a des trucs que je tiens de la vie, quoi. D'ailleurs, c'est comme quand j'ai eu mon entretien avec mon agent de cinéma. Il m'a dit, mais t'as aucune formation de théâtre, etc. Je dis, oui, j'ai fait des cours facultatifs avec un prof, David Valère, en Suisse. Mais ma vraie formation, en vrai, c'est d'avoir taffé.
C'est l'école de la rue.
Bah, c'est vrai. Mmh. Tu dis à un mec qui sort de 3 ans de théâtre, joue le maçon alors qu'il a jamais été sur un chantier, je pense que je suis un peu plus calé que lui, tu vois.
Ouais.
Donc voilà, c'est vrai, comme tu as dit, c'est la formation, ouais, c'est l'école de la rue.
C'est l'école de la vie.
C'est l'école de la vie, mon pote, exactement.
et en fait, tu as la sensation de comment dire, j'ai aussi découvert par l'intermédiaire de ce personnage Carlos.
Ouais, Carlos, ouais.
Que tu tiens à merveille.
Ouais.
J'ai montré tout à l'heure, tu vois, j'étais en train de parler de toi à une amie et tout. Je lui montre une de tes vidéos, elle fait, mais il parle espagnol,
ou ouais. Ouais, bah Carlos, Carlos, il
d'où
est né.
D'où te sort Carlos?
Bah, en fait, tout ce qui est un peu latin, c'est-à-dire italien, portugais, espagnol, j'ai plein d'amis d'enfance qui sont de ces origines-là, donc que ça soit latino. Enfin, tu vois, même moi, la dernière fois, je faisais un accent latino, on m'a dit, ah, mais ça ressemble pas à Carlos. Je dis, ben non, parce que c'est pas espagnol, cet accent. Ça, c'est un accent d'Amérique du Sud. Et en fait, c'est parce que j'ai grandi
avec
ça.
T'as ton accent brésilien, t'as
voilà,
ton personnage.
Brésilien, voilà. Tout un bouquet, un carrousel d'accent. Chose la plus ringarde, hein, en 2023, en vrai. Tu vois, c'est les gens qui disent, ah, il faut pas faire des accents. Mais moi, ça m'a toujours fait rire, surtout quand c'est. Je me permets jamais de faire un accent que je ne maîtrise pas.
Oui, et puis t'as pas.
Et alors après,
t'as
c'est marrant parce qu'il
personnage.
Y a les accents qu'on a le droit de faire, il y a les accents qu'on n'a pas le droit de faire. Mais la vérité, si je maîtrisais parfaitement l'accent le congolais ou que je parlais en lingala, je le ferais. Tu vois, vraiment, je le dis, je le ferais. Mais vu que je le sais pas le faire, je le ferais jamais parce que ça serait catastrophique. Mais pour moi, quelqu'un qui. Parce que ça veut dire que t'as travaillé quelque chose. Donc, tu vois, que t'as mis du temps et que c'est.
Il n'y a pas que ça. Il y a l'expression, il y a l'attitude.
Oui,
y a
bien
la
sûr,
façon
bien
de...
sûr. Et puis moi,
t'as
voilà.
T'as ton petit sortie de langue.
Ouais.
Tu sors ta langue.
Ouais, ça, c'est des trucs.
Incroyable.
Ça, c'est des petites mimiques à travers. Voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai ces accents-là parce que c'était ça et parce que. Surtout à l'époque, les Espagnols, on allait voir les matchs parce qu'on n'avait pas les. J'avais 11 ans, 12 ans. Il fallait aller dans des bars pour voir les matchs, tu vois. On n'avait pas les chaînes comme on a aujourd'hui. Et du coup, on allait dans les bars espagnols ou dans des centres, tu vois. Il y a les centres asturiens, le centre machin, où il y a que des Espagnols. Donc c'était que ça, tu vois. Que des mecs qui parlent comme ça, tu vois. Donc en fait, à force d'entendre ces voix, ouais, tu vois, qui parlent joder, tu vois. Putain, l'arbitre, il déconne, tu vois. Je te l'ai dit, mon gars, parce qu'il savait que je ne parlais pas français, tu vois. Pas espagnol. Du coup, il me parlait comme ça avec moi, tu vois. Pero con Gabriel, tu vois, c'est à l'espagnol. Donc c'était tout le temps machin, et ça, c'est là, hein. Comme l'italien, le portugais, le machin, c'était tout ça, c'était environnant. Donc, et Carlos, après, j'ai trouvé ça... J'ai commencé à le faire avec des amis, puis ça faisait rire, et puis ça fait ça. Puis j'en ai fait un perso. Puis au début, je faisais bien sûr le perso genre baiser, machin, un peu macho. Mais en fait, ce qui est plus marrant, c'est ce qui est devenu après. Parce que j'ai revu des vieux trucs de Carlos, c'est vrai qu'il était assez... comme on l'attend, quoi. Macho,
plafond, quoi. Ouais, ouais. C'est ça.
Et aujourd'hui, je le trouve un peu plus profond. Il est, il est hyper féministe, il est hyper inclusif, et je trouve que c'est ça qui est drôle. D'avoir un gars, tu vois, qui est hyper fier, mais tu vois, qui... Peu importe ce que tu es, femme, homo, bi, bisexuel, tu vois. J'adore tout le monde, tu vois.
L'important, c'est de...
Mais il y a des choses. De... Il faut venir voir le spectacle.
Oui, voilà. très bien. Parlons de vivre des choses.
Ouais.
Donc, ouais, tu... Quand est-ce que tu... Donc, tu décides de monter sur scène 2012, c'est ça, pour la première fois?
2013. Février 2013.
Tes potes foutent sur scène? C'est incroyable, cette histoire.
Ouais, c'est des potes à moi qui me... On est en train de faire un before, c'est un samedi soir, je crois, ou un vendredi soir. On est en train de boire, on rigole et tout. Et puis, ils me disent, ah, tiens, Alex, vu que tu nous fais marrer, on t'a inscrit à un truc, là, du Swiss Comedy Club à Genève, au Chat Noir. Je dis, quoi? Ouais, il faut que tu fasses un sketch et tout. Je dis, jamais de la vie, je vais là-bas. Parce qu'en fait, j'avais trop peur. Déjà, ça semblait trop proche. Et en fait, il fallait que je fasse un... Il fallait que je fasse rire des gens dans ma ville, dans un lieu où potentiellement il y a des gens qui me connaissent. Pour moi, c'était impossible. Je me dis, je vais me prendre un four. Et je dis, tu sais quoi, vas-y, challenge accepted, mais je vais à Lausanne.
OK.
Comme Marina. Et Marina, je pense que c'est pour les mêmes raisons.
Ah ouais,
ouais. Tu vois, aller jouer à l'extérieur pour voir comment ça va. Et finalement, la première scène, c'est vraiment... je pense que c'est à peu près... Je pense que c'est comme quand tu essayes le crack. Hein.
Ouais, c'est la première, ce premier shoot.
Ouais, parce que surtout que ça se passe bien, quoi. Donc, je sors de scène, mais j'ai les mains qui tremblent. J'ai envie de dire à tout le monde. Je fais tout mon répertoire. Gars, j'ai joué, c'était incroyable. Et j'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, j'étais éclaté en cours parce que j'étais fou pour moi ce que j'avais vécu. Et après, je recommence, ça se passe bien, je recommence, je prends la confiance, je me viande.
C'est ça, il y a toujours.
Bah oui, il y a toujours. Et puis, c'est toujours le jour où tu dis à la meuf que tu kiffes que de venir te voir. Parce que toi, t'es un boss. Et elle vient, et à la fin, elle te regarde, et fait genre, elle t'a pas vu.
Oh non!
Ah ouais, et là, t'es là, bon, bah allez.
Sad.
Il me reste encore 3 tickets boissons, je crois que je vais m'enculer. Donc voilà, ouais. Mais t'es obligé, c'est ce qui fait que ça te donne envie de remonter sur scène aussi. Ça se passe tout le temps bien, il y a un problème.
Oui.
Il y a un problème.
Faut se vautrer.
Ouais, puis faut se vautrer, puis c'est ce qui t'endurcit, puis même. Et puis même, faut se vautrer, je dirais, plus largement dans la vie, tu vois. C'est les phrases que tu vois sur Internet, mais c'est vrai que c'est en connaissant les échecs, tu vois, que tu surpasses, tu deviens meilleur et machin. Et c'est ça qui est excitant. Parce que... Et puis c'est ce qui fait tout le matériel d'un humoriste aujourd'hui. Si tu peux demander à n'importe quel humoriste qui vit une galère, il va être là, putain, merde, on m'a piqué ma bagnole, machin, je retrouve pas mes affaires, il y avait mon ordi dedans... Putain, le cadeau de ma mère et tout, machin. Et puis, 5 minutes après, tu fais, ah, mais ça fait peut-être 5 minutes.
Très bon sketch.
Tu vois, ouais. Alors là, c'est. Alors, en l'occurrence, ce que je viens de dire, c'est pas fou. À moins qu'il y ait un détail, tu vois. Il y avait là, voilà.
Oui.
Putain, on m'a piqué ma caisse et il y avait la bague de fiançailles. J'avais demandé à ma femme en mariage. C'est la merde. Ouais, 5 minutes après, tu te dis, ah, il y a peut-être 10 minutes à faire. Donc, t'as un truc de base et t'essayes et ça marche. Ça te fait oublier ta galère.
Faut quand même expliquer qu'il y a pas mal de choses qui sont inspirées de ta vraie vie dans ton spectacle.
Ah, tout. Tout est inspiré de ma vraie vie. Après, il y a bien sûr, il y a une manière de romancer les choses.
C'est,
oui, c'est
romancé,
un film.
Hein. C'est raconté.
C'est raconté. C'est ça. C'est inspiré de faits réels. Ouais. Et en fait, je me rends compte que c'est de plus en plus un film, en fait. C'est vrai. C'est inspiré de faits réels.
Mais ça pourrait être un film, clairement.
Ouais. Ouais, ouais. Alors, ça coûterait pas mal. Il y aurait quand même pas mal de décors et d'effets. Il y aurait un peu de FX, machin.
Un peu d'effets spéciaux.
Voilà, ouais. Mais ouais. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? D'ailleurs, à un moment donné, j'y pensais. J'aurais trop voulu faire la capta de mon spectacle et faire mon spectacle, mais en court-métrage, tu vois.
Ah,
prendre
yes.
Les blocs par bloc et en faire des trucs. Mais bon. Ça, il faut vraiment peser dans le game pour qu'on dise allez, on te donne 10 millions d'euros.
RDV dans quelques années.
On verra.
Netflix.
Ouais.
Allô, on verra. Netflix, ouais. Pas, je trouve.
Ouais, bah on verra. Ouais, Netflix Special. Si je serai encore en vie. Hein.
Ah ouais.
Bon, c'est n'importe quoi. La déprime, ouais, en fait, en vrai, je suis sûr. Merci de m'avoir invité parce que ça va pas du tout, en fait.
T'as besoin de parler.
Ouais.
En fait, c'est incroyable parce que j'ai l'impression aussi. Donc, j'ai retrouvé. Il n'y a pas beaucoup de choses de toi, hein, de l'époque.
De sketch
sur internet.
Ouais.
Faut...
Mais parce que j'ai quasi jamais rien mis. En fait, à part si c'est Montreux ou machin.
Ouais.
Il doit y avoir peut-être un vieux sketch.
Il y a un vieux Montreux.
Un vieux Montreux.
Genre de 2017, un truc comme ça, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais qui est pareil, qui est pas capté, qui est juste. C'est quelqu'un qui a filmé sa télé.
Ah ouais.
C'est incroyable, ouais.
Ah oui, où je suis tout en noir, ouais. Machin. Ouais, ouais, je vois. C'était mon premier Montreux, ouais.
Ouais.
C'était, j'avais gagné un concours pour participer. C'est Joke Nation. Ça
Joke Nation.
Il y avait en fait, il y avait plusieurs parrains selon pays de le. T'avais des parrains selon les pays francophones. Et le parrain suisse, c'était Thomas Wiesel. Et moi, j'étais le poulain, en gros. Et par exemple, le parrain belge, c'était Vizorek. Et le poulain, c'était Guillermo Guise.
Bah oui.
Et ouais, on a tous eu notre passage là-dessus. Et ça, c'était super bien. Enfin, moi, c'était fou parce que c'est la première fois que je jouais devant 1600 personnes. Je trouvais ça dingue. Mais le truc le plus dingue, c'est que ma mère a fait Montreux ce soir-là.
Quoi ?
Ouais. Ah, tu savais pas ça ? Non. Ma mère. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a, un ou deux artistes après moi, il y avait un mec qui faisait un numéro un peu de clown muet. Tu vois, un peu à la Charlie Chaplin, et il faisait tout un truc. Il installait une table et il faisait croire qu'il ramenait un date et machin.
Et donc, il demande à quelqu'un.
Et donc, en fait, il fait. Donc, moi, je savais ce qu'il faisait comme sketch parce que je l'avais vu en répétition.
Ouais.
Le truc, c'est que moi, je finis mon passage, je suis trop content. Je me dis, oh là là, je vais dans les coulisses, je prends une bière, je fume une clope avec les techniciens. Je suis trop content et je parle et tout, machin. Et là, il y a Thomas Wiesel qui arrive dans les coulisses et qui me dit, mec, il y a ta mère sur scène. Et moi, j'entends ça. Je dis, ta gueule, fils de pute. Et il dit, non, non, il y a vraiment
c'est
ta mère sur scène. Et là, je sors du centre de cuisine, je regarde l'écran et je vois ma mère sur scène. Et je dis, mais ta gueule. Et là, je fais le lien. Je dis, putain, sur 1600 personnes, il a pointé ma mère et il l'a fait monter sur scène. Et le pire, tu sais, souvent quand tu fais de l'impro ou machin, il y a une règle, je crois qu'il ne faut jamais dire non. Tu vois, il faut toujours être dans le... Ma mère, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait tout l'inverse. Donc, il l'installe à la table. Il l'installe à la table, genre c'est son date. Ils ouvrent le menu, ma mère elle ouvre le menu. Et il lui fait le geste d'or. Tu veux manger quoi ? Hein ? Tu veux manger quoi ? Et ma mère elle dit non, non. Je dis oh non, la galère, non. Et en fait, elle dit tellement non, non que ça commence à faire rire les gens. Et à un moment donné, elle fait non. Et elle fait juste boire. Genre elle veut se bourrer la gueule. Et là, les gens éclatent. Et elle a un applause. Et,
ben voilà.
Et je suis là. Et je dis c'est fou. Si la meuf, elle a rien, elle a jamais travaillé son sketch, elle a eu un applause. Et à la fin, les gens pensaient que c'était pipé, quoi. Le mec, il arrive, il dit, mec, c'est incroyable, j'ai demandé les droits à la nana pour les droits d'image et tout, elle a signé, devine comment elle s'appelle, Anna Kominek. Putain, comment tu sais? C'est ma mère. Je dis, quoi? Je dis, ma mère, elle a fait Montreux. Et après, elle était donc avec nous dans l'espace, tu vois, artiste et tout. Et tout le monde pensait que c'était un coup monté, pas du tout. Mais ma mère, elle, boulard, elle commence à avoir la confiance. Elle demande des bracelets, du champagne et tout. Elle commence à parler aux artistes, à dire qu'elle c'est une artiste aussi. Oh, elle était lancée, hein. C'était exceptionnel. Elle m'a piqué la vedette. Au lieu que les gens me disent bravo, c'était cool, Alex, elle disait madame, franchement, c'était énorme. Moi, j'étais là, bon, hein. Alex, c'était cool, mais madame, ta mère, c'était énorme. Alors, donc c'est. Mais je pense que je pense que je dois être le seul humoriste à Montreux dont la mère l'a fait aussi, quoi.
Je
pense.
Je crois. Enfin, après, faudrait peut-être demander aux organisateurs, ouais, mais franchement, la proba, elle est...
C'est fou.
La proba, elle est faible.
Ouais.
Mais ouais, j'ai un peu l'impression que t'as vachement évolué, en fait. Tu vois, entre le gars qui était sur scène en 2017, j'ai un peu l'impression que c'était un peu plus du stand-up, un peu classique, où tu faisais des vannes et... Bon, voilà quoi.
Ouais, ouais.
Là où aujourd'hui, t'es dans une représentation totale, quoi.
Oui, parce que. Mais parce que c'est. En fait. Je pense que ça part d'un complexe aussi. C'est qu'on veut faire les choses bien, on a peur de trop en faire, on a peur de trop se montrer. Et en vrai, même si je parais exubérant comme ça, tu vois, avec le slip et les trucs, c'est qu'en fait, c'est petit à petit, quoi. C'est que j'ai peur. Donc, mais tant mieux que j'ai pris le temps et machin, et en vrai, j'aurais jamais eu la confiance de le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, à force d'avoir bossé, d'être entouré avec une bonne équipe aussi, qui m'a dit, mais fonce, parce que c'est comme ça que t'es bon, et je sais que c'est comme ça que je suis bon. Maintenant, je suis épanoui, et je sens que c'est là-dedans que je m'épanouis le plus. pas, tu vois. Alors c'est vrai que je fais du stand-up, mais c'est vrai qu'après j'aime jouer et c'est les moments pour moi où je m'éclate le plus dans le spectacle, c'est quand je fais des petits persos, des moments où il y a du dialogue plutôt que de raconter des choses sur ma vie directement.
C'était quoi le processus? C'est vraiment par l'intermédiaire du regard des autres? T'as l'impression que t'as lâché les chevaux?
Ouais, une sorte de validation. J'ai toujours eu un truc comme quoi j'ai l'impression que j'ai besoin d'être validé avant de pouvoir... Mais que j'ai lâché là maintenant.
Ok.
Maintenant, j'en ai rien à foutre.
Plus rien à foutre.
Ouais, en fait, j'ai eu, tu vois, ce truc de... Je pense que j'ai eu un premier pas... Déjà, le premier gros fact, c'était... Arrête d'écouter ce que les gens disent, fais ce que t'as envie de faire. Une fois que je suis arrivé dans la phase de je fais ce que j'ai envie de faire, arrête de faire ce que les gens attendent, fais ce que t'as envie de faire. Et là, je viens de passer ce stade. Je pense, tu vois, maintenant, en y réfléchissant, que j'ai lâché ce truc de écoute, je suis comme ça, les gens, s'ils aiment pas, ils aiment pas. Et...
Ah ouais,
mais c'est venu là, il y a pas longtemps. Hein, c'est venu, même, tu vois, avant, encore l'année dernière, quand je jouais... au théâtre du Marais, il y avait des soirs où si je sentais que les gens, au bout de 5 minutes, ils rentraient pas, bah, je calmais les curseurs et puis je revenais un peu plus à raconter en mode classique. Alors qu'aujourd'hui, si aux 5 minutes, ça prend pas, je m'en balèque. Et en fait, ça me fait rire. Et je me dis que de toute manière, parce que maintenant, en fait, j'ai pris confiance en moi et confiance aussi au spectacle, ce qui fait que je sais qu'au bout d'un moment, ça va lâcher. Ils vont lâcher. Je vais les avoir à l'usure. Je parle évidemment de spectacle.
On l'a compris.
Hein, et de rire. Je ne parle pas d'autres choses. Hein, voilà.
Mais t'as une standing là. Je ne sais pas si c'est tous les soirs où t'as une standing, mais c'est cool aussi de voir que effectivement ça fonctionne quand tu vas.
Et puis là
quoi.
En plus la salle est plus grande maintenant.
Ouais.
Donc plus c'est grand. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que plus c'est grand, plus les rires sont forts et plus je me sens porté. C'est pour ça que je casse des choses. j'ai envie de casser des trucs. Mais plus c'est grand et moins plus c'est grand et moins ça rigole, tu le sens mieux, tu le sens plus, hein.
Ouais.
Parce que là tu dis voilà, d'accord. Et tu vois par exemple le samedi quand j'ai joué, le début, j'ai senti les gens, c'était quand même plus âgé et j'ai senti les gens oh waouh. Mais le oh waouh, je l'ai dit là les gens dans ma tête, je me dis là les gens, je pense qu'ils sont en train de réaliser petit à petit ce qu'ils sont en train de venir voir. C'est pas que t'es en train de bider, c'est qu'ils sont en train de se prendre une petite gifle.
Ouais. Tu parce vois qu'il y a tout, j'ai vraiment dans le public, il y a toutes sortes d'âges. Hein.
Ouais.
Parce que tu passes sur France Inter, donc forcément il y a des vieux quoi.
Ouais,
tu vois.
Il y a de tout.
Qui viennent.
Mais tu sais surtout sur la tournée, j'avais plein. Hein. J'en ai plein des soirs. Je me dis oh là là, mais ils rigolent. Et en fait tu sais, il faut arrêter de dire les vieux, parce que les vieux, ils ont tout vécu. Ils ont tout vécu avant nous. Souvent, on a ce truc, ouais, les vieux. Mais non, mais mec, les vieux.
Ils étaient là dans les années 70, là.
Bah ouais, les meilleurs.
Et
ça baisait, il n'y avait pas le sida, ils fumaient tous des joints. Tu vois, c'était fou.
Bah
donc, ouais, c'est pas nous avec nos histoires à la con, ouais, Tinder, j'ai mis une capote, ouais, super. Là, le mec, il est à des milliers d'années-lumière de toi, en fait.
Bah oui.
Et moi, c'était un des ça m'est arrivé deux fois, des compliments. Comme ça, où il y avait une dame, deux dames à la retraite qui m'avaient dit « Vous savez, monsieur, on est retraité, j'ai 67 ans, mais aujourd'hui, grâce à vous, j'ai l'impression d'avoir 20 ans. » C'est génial, tu vois. Puis d'avoir une communion sur des sujets aussi deg, entre des plus jeunes et des plus vieux, c'est super. Je trouve ça génial. Mais là, ça me dit, tu vois, tu tiens la baraque, et en fait, au bout de 5 minutes, ça allait, c'est parti. Donc, et ça, c'est parce que j'ai pris confiance en ce que je faisais et que peu importe ce qui se passe, je m'en balèque, je fais ce que j'aime faire.
Mais tu vois, je me demande qu'est-ce qui t'a fait lâcher. Parce que j'imagine que tu...
Des gens aussi, l'entourage.
Ouais.
C'est clairement l'équipe à qui je travaille, ouais. Dark Smile et Agapé Productions. Émilie Candinis, Pascal Lely et Jérémy Ferrari, c'est des gens... et tout mon entourage autour aussi qui m'ont dit, mais mec, c'est...
Faut y aller, quoi.
Bah gars, c'est bon. Et moi, j'étais là, t'es sûr et tout. Puis en fait, ils m'ont montré A plus B.
Ouais.
Regarde, fais, tu verras. J'ai fait, j'ai vu. Donc j'ai pris confiance.
Ok.
Mais tu vois, j'avais besoin d'être rassuré, une fois de plus.
Parce que j'imagine tu fais aussi ce métier pour qu'on t'aime, quoi.
Non. Pas pour qu'on m'aime.
Non.
Non, franchement, non.
Même au début.
Pour qu'on me suce. Pardon.
Non, allez, non. Oui, bien sûr. Normal.
Et là, mon attaché de presse qui est pas bien du tout. Non, je fais ça pour. Je fais ça parce que j'aime.
Tu sens vraiment qu'il y a le masque et la.
Il est toujours là, le petit monstre. Et non, je fais ça parce que J'adore faire ça. Je fais pas ça parce qu'on m'aime.
Pour
qu'on m'aime. Je fais ça parce que j'aime faire ça. Et parce que je trouve ça génial. Et parce qu'en fait,
non mais...
je trouve que je peux offrir quelque chose de cool aux gens.
Oui, mais tu montes pas sur scène comme ça sans qu'il y ait un truc un peu.
Évidemment.
Évidemment.
Mais il y a sûrement un truc. J'ai jamais fait de psychanalyse et de machin. Il y a sûrement un truc de besoin de confirmer quelque chose et d'avoir peut-être, tu vois, surtout lié à ma mère.
La daronne polonaise, là.
Ma mère, elle est fière de moi. Mais elle est fière de moi maintenant, ma mère.
Oui.
Hein. Mais elle a mis du temps. Hein. Elle a mis du temps avant d'être. De me dire, je suis content, je suis fier.
Je t'aime.
Mais ouais, ça fait longtemps. Hein. Ouais. Ça pas longtemps.
Ouais.
Mais
c'est dur.
Ouais.
C'est chiant.
Mais c'est bien aussi, hein. C'est bien aussi. Moi, je vois aujourd'hui, quand je vois l'éducation de certains enfants, où on leur trouve des excuses. Oui, non, il faut pas vivre comme ça. Il faut être comme ça. Il faut mèche. Tu vois.
Ouais.
Enfin, après, je me mêle pas de la vie des gens, mais j'ai. C'est quand même fou, quoi. Moi, je vois mon entourage. On a tous eu des problèmes. On a tous eu des darons à la con. Enfin, tous, hein.
Ouais.
J'ai connu des pères qui tapaient leur mère, qui tapaient, qui tapaient leur femme. Des pères qui sont partis, des beaux-pères alcooliques. Dans mon entourage de potes, tu vois. Mmh. Moi, mon père était pas... Mais tous mes potes vont bien, tu vois. Puis quand on était cons, on se prenait une gifle, les mecs qui n'avaient pas tous ces termes, quoi. Et on n'a jamais fait de psychanalyse. Alors après, c'est sûrement super, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des trucs où moi, je vois...
Tu baisses des tabourets sur scène,
voilà,
quoi.
Bah oui, bah, mais c'est mon espace.
Oui, c'est ça.
C'est mon espace à moi, c'est mon safe space.
C'est mon safe space.
À moi, voilà.
Pas pour le tabouret.
C'est la petite bulle. Mais c'est ça qui est beau aussi avec le théâtre. C'est que c'est un endroit, tu vois, où tu peux tout faire.
Ouais,
quoi.
Carrément.
Tu vois, c'est comme maintenant, ils veulent... C'est un sujet touchy, je pense, mais... Hitler, au final. Non, j'ai rigolé.
L'heure des nazis. Let's go, les Suisses.
Non, non, mais tu vois, c'est comme ces trucs maintenant, les insultes sur... quand ils veulent, voilà... Les insultes homophobes, racistes et tout ça dans les stades. Évidemment, c'est dégueulasse.
Ouais.
Mais je pense que, tu vois, c'est un défouloir, en fait, aussi, tu vois.
Ouais.
Je pense qu'il y a des gens, ils ont besoin de cracher des trucs. Il doit y avoir un truc, je pense qu'on devrait peut-être qu'il y ait un concept à créer, tu vois, où on pourrait avoir...
Vous venez sur scène, vous mettez des coups de pied dans des
ouais,
micros,
quoi. Mais parce que je pense qu'il y a des gens, ils vont au stade aussi, c'est pour dire « nique ta mère, l'arbitre ». En vrai, l'arbitre, il prend parce que l'autre, il prend toute sa semaine au boulot. Tu vois, c'est juste qu'il est dans une euphorie parce que t'es fan de foot, toi, ou pas?
Basket.
Tu vois,
ils sont sympas avec
le basket. Il y a que le foot. Le foot, c'est un sport de Google. Mais c'est le seul sport où il y a des bagarres. Le rugby,
il y a les bagarres
sur le truc.
Terrain,
et encore, ils sont cool. À la fin, ils serrent la main. C'est gentleman, quoi. Le rugby, le foot, c'est vraiment le seul sport où il y a 80 000 débiles, quoi, dans un stade. Mais quand tu as 80 000 personnes qui sont là, qui crient des trucs, tu pars dans des trans, des folies et des machins. Et les gens, c'est ce qu'ils viennent rechercher, je pense. Et donc aujourd'hui, évidemment, c'est affreux de dire ça, mais bon. De là à dire, c'est un autre sujet encore. Mais tu vois.
C'est marrant parce que, tu vois, j'étais avec une amie qui m'a dit, c'était ultra drôle et tout, mais il m'a fait sortir à partir du moment où il parle de viol et il mime un viol sur scène.
Ouais.
Et en fait,
je me fais violer moi.
Voilà, ouais. C'est ce que je lui ai dit. En fait, je lui ai dit, mais en fait, il se met en situation de victime, tu vois, à ce moment-là. Et tu vois, tu sentais que pour elle, c'était sa limite perso, tu vois.
Ouais, non, mais parce qu'aussi, on est dans une époque où les gens, de temps en temps, ils se laissent pas porter par ce que tu dis. Ils veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Moi, j'ai une histoire. C'est là où ça m'a fait un tilt. J'ai eu un truc avec deux personnes du public qui apparemment on faisait un comedy club, ils sont sortis de la salle, je les ai pas vus moi, et en fait ils viennent me parler à la fin, et je sais pas, il y a un mec, je sens quelqu'un qui vient derrière, me fait t'as pas honte? Je dis pardon? Il me dit t'as pas honte de ce que tu dis? Je dis ah, c'est toi qui es sorti? Il me fait ouais, c'était scandaleux. Je dis ah bon, c'est scandaleux? Je dis mais t'es parti au bout de 2 minutes, non? Ouais, c'était... Et donc là, tu viens me dire c'est scandaleux alors que moi, j'ai fait 20 minutes sur scène. T'attends pas la fin pour... Non, c'est insoutenable. Je dis, ah, ok. Il fait, ah, il n'y a pas de débat. Ben non, il n'y a pas de débat. T'as écouté deux accords d'une chanson, tu me dis, le couplet, c'est de la merde. Ben non. Et je sais pas, juste après, je monte prendre une bière. Le mec et la nana, ils ont pris en otage des potes et tout. Ouais, c'est scandaleux, c'est... Et gars, tu sais pourquoi c'était scandaleux? C'est parce que j'ai dit à une fille J'ai rencontré une fille en boîte, j'ai dit que j'habitais dans un duplex, et en arrivant, elle me dit « Ah non, c'est pas un duplex, c'est une mezzanine. » Et ben ça, pour lui, c'était genre emprise psychologique, je sais pas quoi.
Ah oui.
Gros mec, la blague, c'est que mon putain de 17 mètres carrés, j'appelle ça un duplex. Non mais tu vois, c'est-à-dire oui. que... Et donc tu dis, mais les gens, en fait, ils sont fous. Donc, et alors là, c'est surtout à ce moment-là, tu dis, mais... Et c'est une minorité de gens. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait beaucoup de bruit parce que tout le monde a commencé à chier dessus. De, oh mon Dieu, mais en fait, si on dit ça, mais on peut tout dire. Il faut juste bien le dire et puis évidemment, se rendre compte de ce qu'on dit.
Ouais.
Mais il y a quand même beaucoup de gens qui s'attachent sur... Tu dis un mot... En fait, c'est la génération hashtag. Tu dis ta-da-da-da, viol. Oh, quoi ? Il a violé quelqu'un ? Ben non, t'as pas écouté. Il a dit qu'il a été victime d'un truc ou machin. Tu vois, c'est que... Il y a des mots qui sont déclencheurs. Des hashtags. Il entend, tac, la nana, chez lui, quoi, j'ai quoi. Donc, il a ramené, mais quoi, il l'a forcé. Mais non, pas du tout. Suis. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si je suis assez clair, mais...
Est-ce que c'est de la matière pour toi en tant qu'humoriste ? Je pense aussi à tes potes, genre Mourad Winter, etc.
Ah,
qui
mais nous, on s'en fout dans... pas les couilles. Enfin, tu vois, Winter, tu vois bien son... Oui. C'est... Mais c'est ce qui est drôle, en plus. C'est que... T'as plein de gens qui sont genre comme ça, mais qui derrière, ils vont tous aller voir les stories de Mourad Winter. Parce qu'ils ont envie. Ils ont envie qu'ils chient sur le monde, ils ont envie qu'ils balancent des trucs qu'on n'ose pas dire. Parce que c'est ça, il y a un truc hypocrite. Et évidemment, ça donne de la matière, surtout sur un prochain spectacle, de parler. Si c'est toujours encore à la mode, tu vois, mais...
Ouais.
Bien sûr. Mais moi je réagis plus, tu vois. Il y a des gens qui ont essayé de me faire des trucs, de me mettre dans des montages, des machins... Tu dis, mais c'est tellement malhonnête. Tu vois les trucs, tu dis, mais c'est pas possible. Les gens n'ont rien compris, ils sont pas venus voir le spectacle. Qu'est-ce que je vais me fatiguer à parler à des gens qui de toute manière, m'aimeront pas, tu vois.
Ok.
Tu vois, c'est...
Ça te blessait au début de ta carrière ou...
Non, jamais. Non,
ça... okay.
Mais, non, mais ça m'énervait, en fait.
Oui.
Parce que je dis, mais il est con, quoi. Mais en fait, après, c'est pas qu'il est con, c'est que je pense qu'en fait, peut-être qu'on a une sensibilité. On a certainement tous une sensibilité différente. Et il y a des gens qui sont pointilleux sur des choses. Auquel moi, mais je ne comprends pas ce truc de, à moins que quelqu'un qui dise, fasse des appels à la haine ou quelque chose, tu vois, mais je comprends pas ce délire d'aller sur des vidéos. Mais déjà, je me suis dit moi-même, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui commandent des vidéos, que ça soit sur Instagram ou YouTube, méchants, des trucs méchants. Et je regardais un moment dans mes potes, je me dis mais il y a quand même beaucoup de gens, donc il y a une probabilité pour que j'aille dans mon groupe d'amis un ami qui va sur des vidéos pour commenter. Mais en vrai, et je leur ai demandé. Non. Et donc, je me dis, c'est qui ces gens ? Je les cherche. Et je cherche même pas les méchants, je cherche même les gentils. Parce que mes potes, moi, s'ils vont voir des sketchs d'humoristes ou de machin, même eux, en commentaire, ils vont pas mettre genre émoji qui pleure, émoji qui pleure, émoji qui... Tu vois ?
Ouais, bien sûr.
Il y a des gens qui le font.
Ouais.
Et c'est super. Mais qui sont-ils ? Parce que moi, je réagis sur mon entourage. Mais je réagis pas, je vais pas mettre smiley cœur sur Roger Federer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est assez marrant, quoi. Qui sont ces gens qui font vivre et en même temps, heureusement qu'ils sont là, mais tant par la haine que par l'amour.
Qui sont-ils ?
Qui sont-ils ? Qui êtes-vous ?
Je t'ai entendu chez Fanny Ruette dire, moi je viens sur scène, j'ai un peu confesser mes péchés.
Ouais.
Ça m'a fait rire.
Oui, bah oui, parce que c'est...
Tu viens confesse.
Oui, c'est un confessionnal, ouais. Ben, c'est un confessionnal. Tout à fait. Ben oui, c'est carrément un confessionnal. Parce que... Mais je trouve que c'est un confessionnal. Le confessionnal, ça reste dans une boîte, tu vois. Un mec qui va voir un prêtre qui se confie et qui lave ses péchés. Moi, je trouve que le fait de m'adresser aux gens, ça permet d'un côté d'adresser quelque chose d'important. Parce que dans ce que je dis, sans certaines histoires, je mets le doigt sur des trucs sur lesquels il faudrait peut-être faire attention aujourd'hui, tu vois.
Ouais.
Ou des trucs qui sont plus possibles aujourd'hui. Et je trouve que c'est bien de le dire. Alors, t'en as qui vont te dire, parce qu'ils ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, que je vais faire l'apologie de X ou Y. Mais c'est pas ça ce que je fais. Et alors, surtout quand on me parle de... Il y a une fois, il y a un moment donné, il y a un truc où le viol... J'ai une amie qui s'est fait violer. Je peux dire que c'est pas ça un viol. Hein. Déjà un viol, tu poses pas une question. Enfin, tu vois, c'est Mais c'est une fois de plus, c'est les gens, ils ont envie d'entendre ça, ils ont envie d'entendre ça. Voilà.
Ouais, t'as réussi à te détacher de ça aujourd'hui.
Ah, complètement.
Ah ouais,
complètement,
ouais.
Complètement.
Et t'as l'impression que ça t'a libéré en tant qu'artiste?
Ah oui, oui, oh, j'ai oui. Rien à foutre. Rien à foutre, rien à foutre. Même les commentaires, je jamais voir, je veux. Commentaires des chroniques et machin, je vais jamais voir. Au début, t'es là, tu te dis, ah, c'est qui ce connard? Yo, Guillermo Guise. Surtout sur France Inter. Mais après, tu te dis, mais ça me sert à rien d'aller voir. Parce que, en fait, ça sert à rien. Parce que soit on va te brosser le poil. Génie. Parce que, alors, le génie, c'est le mot le plus utilisé, oui. Je crois, sur Internet. Et donc, autant ça va, soit ça va te faire du bien à l'ego et tu vas te reposer sur tes lauriers, soit t'es cul de merde et t'as envie de te jeter sous le bus, tu vois. Donc, franchement, faire son truc, faire rire, passer un bon moment, bah déjà, c'est le...
C'est déjà bien.
C'est déjà pas mal, ouais. Je trouve que c'est une bonne promesse. Moi, si je vais à un spectacle et que je rigole, parce que je vais à un spectacle d'humour. Moi, j'aime les spectacles d'humour pour vivre des trucs, tu vois.
Ouais.
Être choqué, être... Après, parce que chacun son humour, évidemment. Être surpris, tu vois. Il y a des humoristes que j'adore qui font absolument pas ce que je fais. Je suis absolument fan de Julien Santini. Il est.
J'ai jamais vu sur scène.
Mais... Ah non, mais il faut aller le voir.
Ok.
C'est exceptionnel.
Ok.
Alors qu'on est deux êtres complètement différents. C'est ça qui est drôle.
Ok. T'as l'impression d'avoir du succès aujourd'hui?
Un peu plus, ouais. Bah là, tout à l'heure à la boulangerie, il y a une dame qui m'a dit j'adore ce que vous faites.
Allez là, putain.
Ouais.
C'est pour ça que tu t'as fait tout ça, non? Pour que personne de la boulangerie te
les dise. Les dames.
Non, mais les mamans.
Ça m'a surpris. À Genève, j'en avais un peu plus parce que plus rapidement, parce que c'était plus facile, c'est plus petit, etc. Mais là, à Paris, ouais, c'est plus surprenant. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Mais j'attends le jour où il y a quelqu'un qui me dit ah, enculé.
Dans la rue.
Mais il y a un mec, une fois, il m'a fait un compliment, pas vraiment compliment, ça m'a fait trop rire. En soirée, il m'a dit « Oh, putain, c'est toi ?» Alors déjà, ça, c'est toi.
Bizarre.
Okay, ouais. Et il fait « Toi, t'es trop marrant, fils de pute. » Et j'ai dit « C'est hyper cool. » Et à la fois, pourquoi ma mère? Pourquoi
l'insulte ça, ouais.
Non, donc oui, ça fait plaisir. Et oui, peut-être je ressens un peu plus parce que je suis plus exposé aussi. Donc, si je le veux ou non, les gens, ils sont forcés de voir ma gueule. Que ce soit sur les réseaux ou à la radio. Ensuite, je fais de la pub. Je fais une pub pour un.
J'ai vu sur les réseaux sociaux.
Téléphone, tu vois. Donc.
T'es géri.
Géri mobile. Low cost. Ouais.
Faut bien commencer quelque part.
C'est ça.
Avant la pub Dior.
Voilà, avant Sauvage. Oh, ça m'irait bien, hein, Sauvage Dior. Putain, on peut pas faire un truc, hein, Sauvage.
Après Johnny Depp. Shit.
Après Johnny Depp. Ce serait pas mal.
Ouais.
Alexandre Kominek, bon, voilà. Un peu moins connu, mais.
Bon,
mais c'est, ouais, c'est... pourquoi pas? Et c'est chiant parce que c'est dommage. Mais bon, c'est normal. Les humoristes, ils sont pas considérés comme des. C'est toujours les acteurs, tu vois, on prend toujours les gens mystérieux.
T'as envie de faire du ciné?
Ah ouais, c'est mon rêve.
Ouais.
Mais j'aimerais faire du ciné, mais pas forcément comique, quoi.
Ah!
Ouais, moi j'ai.
Tu voudrais faire ton tchao pantin direct, quoi?
Ouais, direct. Non, évidemment, faire un pied. Je fais deux, trois apparitions dans des. Je suis dans une comédie Netflix.
J'ai vu tourner des trucs cet été là.
Et là j'étais sur une série en Suisse.
Okay.
Une comédie Netflix qui arrive en novembre, réalisée par Julien Royal. Mais c'est des petits seconds rôles comme ça, mais c'est cool. Mais j'aimerais plus, parce que j'ai commencé avec le théâtre, j'ai commencé avec des trucs un peu sérieux. T'as vu, j'ai des petits moments où je reviens en Suisse.
T'as fait Phèdre et tout.
Ouais. Non, pas forcément Phèdre, mais c'est vrai que des trucs un peu plus. Où tu fais pas le comique, quoi.
Ouais.
Et ça me plaît plus. Parce que même en vrai, je regarde plus de films. J'adore le drame, j'adore les comédies dramatiques, j'adore les. Tu vois. Comédie romantique, c'est pour moi, c'est le top. Mais...
Ah ouais?
Mais c'est vrai que. Ah ouais, comédie romantique, j'adore. Genre, je sais pas, c'est Faudra Notting Hill ou des trucs.
Ah ouais?
Ouais, non, mais moi j'aime de tout.
À l'ancienne, quoi.
Ouais, mais parce que c'était quand même une époque, putain, on faisait des films de ouf. Hein.
J'aime bien la petite nostalgie qu'il y a derrière.
Non, mais c'est vrai, ouais. Non, mais j'ai l'impression que c'est dur aujourd'hui de retomber sur un film. Parce qu'en fait, on fait tellement en masse avec les plateformes et les trucs, ça produit. Combien de fois tu mets Netflix, Amazon, t'arrêtes parce que c'est de la merde. Parce que t'as l'impression que t'as tout le temps vu. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est devenu le fast-food du cinéma et c'est dur parce que t'as souvent des perles qui arrivent, mais...
T'as vu Anatomie d'une chute ou pas?
Ouais.
Je pense à ça, comédie romantique, c'est bien,
putain.
Non?
Putain, belle comédie romantique, ouais. Putain, le jeu d'acteur dans ce film, il est balèze. Hein.
Ouais.
Et ça m'a fait plaisir parce que je savais pas. Et je suis tombé sur une actrice avec qui j'avais tourné, Camille Rutherford, qui est la fille. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle est tout début du film et elle témoigne, putain.
C'est pas l'étudiante.
Elle est étudiante, elle vient l'interviewer.
Ouais.
Elle, ben j'ai tourné. Putain, le premier plan, quoi. J'ai dit, what the fuck? On a joué ensemble dans une petite scène. Bon, elle avait le premier rôle. C'était Platonique, une scène qui était sur OCS.
Ah
quoi.
Oui.
Et
très chouette.
Et ouais, on a tourné ensemble et je la vois dans un film avec la Palme d'Or. J'ai dit, putain, qu'est-ce que je fous là? Regardez-moi.
Tu vois, non, mais, ah, la comparaison.
Elle est dans un film avec la Palme d'Or et moi je suis en train de bouffer des popcorn. Je viens de payer 18 balles pour la voir. C'est incroyable. Je sais, mais quel coup va ma carrière? Déjà que j'ai commencé le même jour que Marina, alors que je suis pas du tout à son niveau. Qu'est-ce que je fous là?
Alexandre, mais, ouais. Comparaison n'est pas raison.
Oui, bon, évidemment. Non, mais j'étais trop content.
Oui.
Parce que c'est bizarre. Oh, mais c'est fou, tu vois, de voir quelqu'un que tu connais au cinéma, c'est
incroyable.
Parce que déjà, quand tu vas sur une télé, sur une vidéo, c'est chouette. Mais sur un grand écran, et tu t'y attends pas, c'est génial. Donc j'étais hyper content. Et si tu nous écoutes, Camille, je suis très fier de toi.
Non, c'est mais quand même, t'as pas envie d'y être aussi, quoi.
Ah bah ouais, mais j'adorerais. Ouais. Moi, j'adore ces films. J'adorerais.
Ok.
Et je pense que. Et je pense même que peut-être que dans un registre dramatique, je sais pas.
Tu serais bon.
Je sais pas quoi que, je sais pas.
Oh, tu serais bon.
Bon, après, tu sais, c'est plus facile de jouer le drame que de jouer la comédie. Hein.
Oui.
Ça, c'est connu parce que la comédie, c'est vraiment une question de. Bah, tu le vois, hein, y a plein de comiques et plein de mecs qui sont drôles, qui font des superbes. Des superbes. Films dramatiques.
Des Chopin, quoi.
Ouais. Et, bah ouais. Regarde Jim Carrey, tu vois, comme il peut être con et comme il peut être bouleversant. Benoît Poulvord, pareil. Ça, c'est des mecs qui sont, tu vois, vous jouez sur tous les tableaux, quoi.
Gérard Depardieu.
Ouais. T'en as plein, non, mais t'en as plein qui peuvent être. Alors que l'inverse, tu vois. Je suis pas sûr que. Je suis pas sûr qu'Isabelle Huppert puisse me déclencher un fou rire.
Alain Delon. Let's go.
Mais ça serait génial. Bon, mais il était pas mal en César encore. Dans le premier Astérix.
Ouais.
Il était encore pas mal. Parce qu'il avait beaucoup de recul sur lui-même.
Oui.
Donc ça, c'était assez marrant.
Delon et César.
Ouais.
Alexandre, tu joues au gymnase, mais alors, faut réserver maintenant.
Oui, faut réserver.
Parce que
maintenant.
Le gars, il.
C'est, ouais, parce qu'après, c'est. Après,
qu'est-ce
c'est
qui se passe le
non,
succès.
Mais oui, là, ça. Ben oui, si, je sais pas quand ça va sortir ce podcast.
Bientôt, très bientôt.
Alors, oui, alors, il faut réserver parce que. Parce que, alors, si vous écoutez ça, si vous êtes arrivé jusqu'ici,
ben oui.
Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Réservez, parce que je reçois des messages auxquels je ne réponds jamais, de « Putain, on voulait venir te voir le 27, mais il n'y a plus de place. » Ben, c'est parce que vous ne réservez pas pour le 27. Donc, les gens pensent que le 27, il y aura des places. Ben non. Et donc, je ne vais pas moi-même vous trouver des places. Donc, vous sortez les doigts du cul. Vous avez des cartes, vous avez Face ID, ça va en deux secondes, tu réserves ta place, quoi. Non, mais ils font franchement, il y a des gens, ils font chier, quoi.
Ouais.
Et le problème, c'est que ces réseaux sociaux, autant c'est super parce que ça te remplit des salles et parce que ça fait connaître un peu ton travail, ton univers, machin, mes couilles. Et en même temps, il y a une proximité où les gens, ils pensent que tu leur es redevable d'un truc, tu vois. Excuse-moi, j'ai pris un billet en trop. Tu peux me le rembourser. Mais si, je crois que je vais répondre, bien sûr. Hein. Il y a des gens, de temps en temps, je dis oui, rendez-vous à 15h, là. Je suis jamais allé. Et je bloque sur Instagram après. Mais non, mais il faut grandir, il faut se prendre des petites claques pour grandir.
Oui.
Donc
c'est important.
Non, mais c'est ça, c'est que les. Non, donc je joue jusqu'à fin décembre.
Ouais.
Au théâtre du gymnase les jeudis, vendredis, samedi à 21h30.
Et après t'es barré après,
une tournée. Et après il y a une tournée en Suisse et un avenir radieux ou dramatique qui m'attend. On ne sait pas.
Bah oui.
Je vis au jour le jour.
Parce que l'important.
Regarde,
c'est
t'as vu, j'ai un tatouage carpe diem. Non, je rigole. La tête que t'as fait.
J'étais prêt. Moi, j'étais là. Moi, je prends tout. Hein. Non, je prends tout ce que t'as à me dire. Merci beaucoup, Alex.
Ouais, merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.